Devoir de Maëlan Moalik. Bon, Maëlan, c'est pas mal. Je retrouve dans ton devoir le sérieux de ton travail avec des mentions chronologiques qui sont assez précises. Donc, c'est pas mal. Hein. Soit tu as une très grosse capacité de mémorisation quand même, hein, parce que j'avais donné quand même quelque chose de large à réviser. Soit tu te doutais que c'était sur Cuba, mais c'est pas mal du tout. Donc tu as construit correctement ton devoir, hein, donc les deux voilà, excuse-moi, je croyais avoir raté mon enregistrement. Les deux parties que tu proposes sont correctes. Alors après, je pense qu'il faut passer à un autre stade pour arriver à quelque chose de vraiment bien, quoi. C'est-à-dire la phase analytique. Tu as une part d'analyse qui t'échappe, et notamment ici une troisième partie consacrée au rapport entre Khrouchtchev et Fidel Castro, qui me semble assez évident à la lecture de la lettre, mais qui t'a quand même un petit peu échappé. Bon, mais globalement, c'est correct. Alors, je vais te dire ce qui manque. Hein, donc, introduction, le contexte. Très très clairement, je trouve que là, il aurait fallu quand même introduire les crispations depuis le début des années 60, hein, donc notamment de la part de l'URSS sur Berlin et qui mène à la crise de 61, août 61, le mur de Berlin. Je trouve que ça manque quand même. Hein. Et donc après, tu annonces un plan de partie, moi j'aurais rajouté une troisième, mais sinon ça va. Alors, je tourne la page. Elle est en effet issue d'un conflit entre les deux grandes puissances. Non, elle est issue d'une opposition, hein, entre les deux grandes puissances depuis 1947. Voilà. Donc, première partie, sur cette opposition. Alors, pour le discours de Kennedy, tu rappelles les conditions. Il faut que tu montres bien en quoi. Et donc. Le fait que l'URSS soit devenu, toi, au milieu l'allié du nouveau régime cubain, pose donc un problème important. Là, je te mets une petite étoile, et je trouve que tu as répondu à cette question un petit peu plus loin quand tu dis que l'installation de rampes de missiles lui donne un accès voisin aux États-Unis. C'est là qu'il aurait fallu développer. Donc ici, on a une opposition avec des camps qui sont bien campés, et là, on a donc le motif là, donc de la crise, hein, c'est l'installation dans l'hémisphère occidental. C'est comme ça que les Américains appellent leur continent, hein, le continent américain. L'installation de rampes de missiles soviétiques, ça veut dire que très clairement l'URSS sort de sa zone d'influence et vient provoquer les Américains au cœur de leur propre zone. Et donc c'est ça qui pose problème. Et tu peux faire aussi un petit point sur la capacité nucléaire des deux grands. Plutôt que de remonter ici au projet Manhattan, etc., moi j'aurais mis ici, tous les deux sont en possession de la bombe hein, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, peut-être pas la peine de préciser. Et ce sont les seuls en possession donc de missiles intercontinentaux avec cette portée, hein, donc ici, puisque la portée des missiles, c'est quand même plus de 2000 km hein, pour ceux qui sont installés, on est presque à 2000 km et donc ils menacent directement Washington, par exemple, Dallas, Atlanta, enfin des grandes villes américaines. Bon, je pense que là, la provocation, la menace, elle est réelle. Donc, on a donc ici, lors du discours de Kennedy, une importante mise en garde, non pas contre le communisme, un discours de propagande, je suis pas du tout d'accord. Mais je suis d'accord avec qui met aussi en garde du danger nucléaire. Voilà, il faut donc avoir conscience un petit peu de l'importance de ce discours. Il est télévisé, hein, donc effectivement, ça c'est important parce que ça veut dire qu'il s'adresse à l'ensemble de ses concitoyens qui sont équipés en télévision, il s'adresse au monde entier. C'est un test pour Kennedy, donc là moi j'aurais développé, parce qu'il s'est trompé pendant la baie des cochons, il a conseillé l'intervention, enfin ses conseillers lui ont dit qu'il fallait intervenir, hein, donc faire intervenir les anticastristes. Ça a été un échec total, tu le dis plus loin, c'est bien. Et donc là, c'est un test pour lui, voir s'il est capable de répondre à la provocation soviétique d'installation des missiles. Et donc le discours est très important, et c'est pas un discours de propagande, c'est un discours de voilà, nous sommes prêts, et nous sommes même prêts à avoir un goût de sang dans la bouche. Donc il est prêt à déclencher le feu nucléaire, même si ça doit leur coûter. Hein. Donc, et là, c'est important, c'est une démonstration de force qu'il fait. Donc évidemment, Khrouchtchev va reculer. Hein. C'est peut-être ce que tu as voulu dire dans cette partie très très mal écrite. Ce discours télévisé va donc permettre à l'entièreté, oulala, de la population, mais aussi mondiale, qui le visionne, de mettre en cause le communisme et l'URSS d'une possible guerre nucléaire. Oui, c'est très mal dit, hein. Mais c'est voilà, et c'est un test pour lui. Alors, on observe de même une illustration de cette opposition entre les deux puissances dans le second document. Oui, voilà, alors, rapprochement avec, bon, c'est pas un général, un Castro, voilà, s'il se proclame général, si tu veux, mais bon, voilà. Moi, ce que j'aurais dit, c'est que ici, il cite agression, violation des normes élémentaires du droit international, donc c'est là qu'il faut faire dire allusion à la baie des cochons, hein, donc... Voilà, ici le capitalisme américain est critiqué et méprisé, bah, bien sûr, en fait ça fait partie de la rhétorique classique qu'utilisent les soviétiques, comme les Américains utilisent aussi un langage de guerre froide, bon on n'attend rien d'autre, hein. C'est formel, puis ça sert aussi à rassurer Fidel Castro qui se demande de quel côté il est du Khrouchtchev, puisqu'il a déjà résolu la crise avec Kennedy sans lui demander son avis, hein. Alors, le dirigeant soviétique, en son point de vue, ouais. Bon, tu perds un peu de temps là, d'accord? Alors, mais la crise de Cuba n'est pas seulement considérée comme une crise de guerre froide par cette opposition idéologique, c'est un affrontement direct des deux puissances par une dissuasion nucléaire. Je comprends bien ce que tu as voulu dire, mais c'est pas tout à fait bien dit. C'est aussi une crise de guerre froide parce que finalement, on évite l'affrontement direct, évidemment, hein, et on négocie. Voilà. Et donc, ça, c'est intéressant à voir, hein. Alors, donc, la menace, hein, donc ici, donc, là je te dis que tu es hors sujet, moi j'aurais déjà traité ça, c'est une arme donc, de dissuasion, hein, donc le discours peut être vu comme un coup de pression, ah, bah, c'est beaucoup plus que ça, c'est un avertissement, hein, donc, oui, et puis le coup de pression c'est pas très heureux, hein, donc ici comme formule, de la part des États-Unis, mais aussi de démontrer au monde entier que c'est encore une fois l'Union soviétique, non, de démontrer au monde entier que, et je l'aurais fait dans la première partie, je te l'ai déjà dit, que les Américains savent, hein, ils savent réagir à la pression soviétique, là c'est le contraire, et donc ils sont prêts, hein, donc à se défendre et aussi à défendre les alliés, hein, donc c'est aussi, parce que dans le discours de Kennedy, il dit bien qu'ils défendront, hein, donc, tous leurs alliés, hein, donc, et qu'ils ne vont pas se dérober à leur mission, hein, donc ici. Et donc, ils sont à la tête du monde libre et donc d'un bloc militaire qui s'est formé. Alors après, on observe de même cet affrontement des deux grands dans le second document. Voilà, afin de protéger... voilà, le jour où l'URSS annonce... Voilà, la négociation a eu lieu. Donc moi, j'aurais insisté sur les messages, la mention des messages, plusieurs messages. Donc il y a eu une négociation. Tu montres bien que la négociation, c'est... L'URSS retire ses missiles, d'accord, mais tu ne parles pas de la quarantaine et du blocus, hein, que les États-Unis ont installé. Et ça, il aurait fallu le dire dans la première partie. Hein. Et que l'accord secret, il y a une clause secrète, pas trop diffusée, qu'il y a un retrait des missiles de Turquie, c'est bien. Le dirigeant parle aussi alors, des vols de provocation. Donc c'est là que j'aurais fait une troisième partie. Hein. Et donc là, il montre bien, regarde un peu comment il parle à Castro. Hein. Il émet un ton provocateur dans cette lettre. Non, il donne des gages à Castro de son engagement anticommuniste, puisque Castro, anti-impérialiste, pardon, parce que Castro lui reproche, en fait, d'une certaine manière, d'avoir capitulé, hein, donc reculé derrière l'embargo américain, hein, derrière donc la quarantaine. Et donc, il lui donne des gages de communisme. Et donc, ici, donc, c'est cette histoire d'avion espion abattu. Hein. Et là, donc, il aurait fallu peut-être faire une... C'est là que je te reproche... Toi, il manque cette analyse-là, hein, cette perception du caractère donc, de la lettre. Il calme les nerfs de Castro. Il lui dit de garder son sang-froid, hein, et que les relations internationales, et notamment en moment de crise, nécessitent que les gens soient réfléchis, fermes, mais surtout réfléchis. Hein. Donc regarde la ligne extraordinaire, 16. C'est pourquoi, 15-16, j'aimerais vous conseiller de façon amicale de faire preuve de patience, de fermeté, encore plus de fermeté. Il est en train de faire une crise de nerfs, là. Donc arrête, hein, et donc, parce que sinon tu nous mènes au bord, tu nous mènes vers la guerre mondiale. Alors que les choses, il a déjà réglé les choses. Les choses sérieuses se passent entre Kennedy et Khrouchtchev. Et il dit à Castro, retourne dans ton coin là et applique ce qu'on a décidé de faire. Et ça, c'est extrêmement humiliant pour Castro. Hein. Et donc, ça annonce bien évidemment l'analyse, la détente, c'est-à-dire que cette diplomatie au bord du gouffre, eh bien, il ne faut plus qu'elle se passe ainsi. Donc, le télétype qui va être installé entre États-Unis et enfin Moscou et Washington, pardon. Et puis ensuite, eh bien, le fait qu'ils vont gérer les relations internationales en se disant chacun dans sa zone d'influence, on n'intervient pas dans la zone d'influence de l'autre. Hein. Et puis, donc, bah, si tout ira bien. Et donc, les pions, là, les alliés, ce sont des pions qu'on va, bah, auxquels on va intimer l'ordre de se taire. Donc, regarde, hein, ensuite, le coup d'État au Chili, l'URSS ne bouge pas, hein, en 1973. Le printemps de Prague, en 68, eh bien, les États-Unis ne bougent pas. Donc, c'est très, très clair. Hein, et c'est ça qui te manque un petit peu. Alors, je ne te demandais pas de parler du Chili et de la Tchécoslovaquie, mais d'analyser le ton employé par Khrouchtchev. Vis-à-vis de Castro. Voilà, hein, donc conclusion d'accord pour la détente, voilà, c'était ça qu'il fallait voir. Hein. Donc l'arme nucléaire devient une arme politique, c'est la dissuasion, et ils ont fait l'apprentissage de la dissuasion, de la diplomatie à l'ère nucléaire, hein. Après bah, avoir quand même ici là, une phase très très tendue, hein, et donc voilà. Et l'installation d'un téléphone rouge, je suis d'accord. Bon, donc c'est bien, hein, donc il y a des choses qui sont vues, mais ce qui n'est pas vu, hein, c'est l'analyse plus approfondie, hein, et à laquelle je voulais vous amener, hein, donc ici, grâce à la lettre de Khrouchtchev à Castro. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne, on est autour de 13-14, hein, donc ici, Maëlan, donc essai plutôt réussi, hein, donc... qui doit te conforter, hein. Je pense que ben, tu sais que tu travailles, hein. Je pense que tu es assez sûr de toi à ce niveau-là, et puis ben, essaye de comprendre qu'il faut encore donc, approfondir l'analyse, hein, et donc saisir les choses qui sont un peu implicites, hein. Et donc c'était ça qu'il fallait faire. Donc, eh bien, rendez-vous au prochain galop d'essai, hein.